Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. À quoi pensent les bébés? Que ressentent-ils? Que comprennent-ils du monde qui les entoure? Leurs grands yeux ronds nous donnent l'impression qu'ils portent un regard perpétuellement étonné sur tout ce qu'il y a autour d'eux. Mais comment savoir ce qu'il se passe réellement dans leur tête? Nos invités Ghislaine Dehaene et Olivier Mascaro tentent de répondre à cette question. Ils sont passés maîtres dans l'art d'interroger les tout-petits avant même qu'ils ne sachent parler. Ils vont nous raconter les études qu'ils mènent et nous dire ce que savent les scientifiques de ce qui se passe dans la tête d'un petit humain dans les premiers mois de son existence. Pour leur adresser vos questions, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Daniel.
Aujourd'hui, à la une de la science, le lancement du premier satellite angolais.
Oui, un satellite de télécom fabriqué par la Russie et lancé par une fusée ukrainienne. Toute une histoire. C'est le cinquième satellite africain à être mis en orbite en 2017. On ne sait pas encore si tout va bien. En tout cas, on parle de politique spatiale sur le continent africain avec Florence Zborowski.
Vos questions, vos réactions sur Twitter avec le mot-clé l'attaque. Voilà pour le programme de cette Tête au Carré réalisée par Céline Hila et préparé par Sophie Vaux et Thomas Kalevitch.
La Tête au Carré, les mercredis psy et philo, avec Daniel Fievé sur France Inter.
Autour de la table, Ghislaine Dehaene, pédiatre et neuroscientifique, Olivier Mascaro, chercheur au Baby Lab de Lyon. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors pour beaucoup de gens, les bébés, dans les tout premiers mois de leur existence, ont pour activité principale, pour ne pas dire exclusive, manger et dormir. Et finalement, on se rend compte, en vous écoutant, que c'est beaucoup plus complexe que ça, la vie intérieure d'un bébé.
Bien sûr, parce que d'abord, il a beaucoup de choses à apprendre. Il faut qu'il apprenne à reconnaître son papa, sa maman, frère et sœur, et aussi qu'il apprenne... Alors ça, reconnaître les gens autour de lui, vous allez me dire, n'importe quelle espèce sociale le fait, les petits macaques ont aussi à faire ce genre de choses. Mais ce que doit faire en plus le bébé humain, c'est apprendre le langage et apprendre beaucoup de choses culturelles et politesses que doivent lui transmettre ses parents.
Alors Olivier Mascaro, vos études montrent par exemple que les bébés comprennent très tôt l'organisation sociale d'un groupe.
Oui, c'est vrai, on a pu mettre en évidence le fait que les bébés étaient comme des petits sociologues, si vous voulez, qui forment des hypothèses sur la structure des relations sociales dans un groupe, et en particulier qui sont sensibles aux relations de pouvoir, aux relations hiérarchiques. Ils vont s'attendre à ce que si un individu prévaut dans une situation de conflit, il va prévaloir à nouveau dans une nouvelle situation de conflit.
Nous verrons très concrètement ces tests très simples que vous faites passer aux bébés pour arriver à vos conclusions. Ce sont des petits sociologues en herbe. Comment se construit le cerveau des tout-petits? Que comprennent-ils du monde qui les entoure? Vous ne regarderez peut-être plus les bébés de la même façon après avoir écouté le dossier de La Tête au Carré aujourd'hui. Et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. À la une de la science, le premier satellite de l'Angola lancé hier soir par la Russie depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.
Есть команда на запуск двигателя первой ступени.
Есть контакт подъема первой ступени.
Двигатель вышел на режим.
C'était donc hier soir, retransmission du lancement d'Angosat 1 en direct, le premier satellite de télécom angolais. Sa mission est notamment d'améliorer les communications par satellite, radio ou télé, l'accès à Internet. Le lancement donc hier soir a été qualifié de succès, jusqu'à ce que la Russie annonce avoir perdu le contact avec le satellite il y a 2 heures environ. On s'intéresse aux ambitions spatiales de l'Angola et de l'Afrique. Agnès, avec notre invité, il est en direct du bureau de Radio France à Lyon.
Elle est Florence Zborowski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Est-ce qu'on a retrouvé la trace d'Angosat 1, dont le lancement hier soir à 20h, s'était pourtant bien passé?
Pour l'instant, non. Il n'y a pas de signal qui a été reçu. À savoir que les ingénieurs russes ont une dizaine d'heures à peu près devant eux pour essayer de récupérer le signal avant de considérer que le satellite est perdu.
Il y a eu un premier signal ou bien rien du tout depuis qu'il a été mis en orbite?
A priori, il y a eu un premier signal, mais qui a été perdu très rapidement.
C'est un nouveau revers, ça, donc, pour l'Angola, parce que il y avait déjà eu des reports successifs depuis la fin de la construction de ce satellite.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés à lancer ce satellite, notamment en raison du choix du lanceur qui est une fusée Zénith, qui a 2 premiers étages ukrainiens et 1 dernier étage frégate russe, dû en partie aux tensions politiques entre l'Ukraine et la Russie depuis l'annexion de la Crimée en 2014.
Donc c'est pour ces raisons-là que ça a été reporté à diverses reprises, notamment.
Oui, ça a été reporté. En fait, la première décision de lancement, enfin les premières négociations datent de début 2016 pour savoir comment allait se passer ce lancement. Et il y a eu des reports successifs cette année notamment, avec une première date qui avait été fixée en juillet, puis reportée en septembre, puis en octobre, finalement début décembre, avant d'arriver à la date de lancement final d'hier, du 26 décembre.
Mais qu'est-ce qui est angolais finalement dans ce satellite ?
Oui, c'est la question qu'on se pose, parce qu'on parle du premier lancement de satellite angolais, on a l'impression que c'est un puzzle entre différents états de l'ex-URSS.
Et il n'y a rien d'angolais dans ce premier satellite. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle classiquement dans le spatial un achat sur étagère. Ouais. Donc c'est un contrat qui a été signé en fait en 2009 par l'agence russe RKK Energia avec le gouvernement angolais pour un satellite de télécommunication avec une plateforme russe et une charge utile fournie par Airbus Defence and Space. Les travaux ont réellement démarré sur ce satellite que fin 2012, puisque les années précédentes ont été l'objet de la recherche de financement, à savoir que ce satellite a un coût environ estimé de 300 millions de dollars. Et finalement, une solution a été trouvée avec un crédit des banques publiques russes accordé à l'Angola.
D'accord, donc il est financé, fabriqué par la Russie, lancé par l'Ukraine, mais il doit quand même rendre des services à l'Angola et peut-être à des pays africains voisins. Et quelles étaient ses missions, ou quelles sont ses missions, hein, parce qu'on n'a pas vu sa trace.
On peut espérer rentrer à nouveau en contact avec lui. Quelles étaient ses missions ?
Alors, ces missions, comme vous l'avez mentionné antérieurement, c'est effectivement améliorer les communications par satellite, faciliter l'accès à Internet avec des services aussi de radio-télévision et puis de télédiffusion, éventuellement des services de télémédecine ou de télééducation. Il y a une vocation commerciale puisque l'Angola souhaite vendre aussi certaines de ses capacités à d'autres pays, en sachant que ce satellite a une couverture sur l'Afrique et une partie de l'Europe.
Et ça s'intègre dans des ambitions spatiales très fortes de l'Angola. Il a développé un plan sur 10 ans, c'est ça ?
Alors, en tout cas, des ambitions spatiales tout à fait récentes, puisque la première stratégie spatiale de l'Angola, qui va de 2016 à 2025, n'a été officialisée qu'en mai de cette année, et qui officialise notamment une organisation du spatial qui a démarré environ dans les années 2013 avec la création d'une commission interministérielle de coordination du programme spatial national. L'année suivante, en 2014, il y a eu la création d'un cabinet de gestion du programme spatial national. Et puis, dans les tuyaux, il y a aussi l'objectif de créer une agence spatiale. Cela dit, cette stratégie spatiale publiée en mai a des ambitions assez fortes, puisqu'elle prévoit le lancement d'un satellite d'observation et de météo entre 2019 et 2025.
Il y a beaucoup.
Pour autant, on n'en sait pas plus sur qui seraient les partenaires, les financements, etc., etc. Mmh. Sachant que c'est des projets qui coûtent extrêmement cher.
Mmh. Vous parliez d'un projet justement de construction d'une agence spatiale. Combien de pays en Afrique disposent d'une agence spatiale justement ?
Alors, au sens strict du terme, il y a l'agence spatiale algérienne qui a été créée en 2002. L'agence spatiale sud-africaine qui a été créée en 2010. Et puis après, on retrouve des organisations en lien avec le spatial, mais qu'on ne peut pas qualifier d'agence spatiale. La première à avoir été créée, c'est en Égypte en 1991, qui est le NARS, National Authority for Remote Sensing and Space Science, et suivi en cela par le Nigeria en 2001.
Alors, tout ça coûte beaucoup d'argent. Quel est le but ? Pourquoi, finalement, ces pays investissent, ont une politique spatiale ?
Alors, premièrement, il ne faut pas oublier la forte capacité symbolique de l'espace. C'est la technologie spatiale, c'est une fierté nationale, c'est un affichage de modernité, de compétences, d'ambition. Et il y a une instrumentalisation politique forte de cette technologie aux fins de reconnaissance. Alors, soit de reconnaissance nationale, régionale ou internationale. Donc ça, c'est un des premiers arguments, je dirais, pour lequel les pays veulent se doter de technologies spatiales. Après, il est clair que dans des pays où les infrastructures sont extrêmement défaillantes, les technologies spatiales peuvent réellement apporter un plus en matière de communication, de gestion des ressources, etc., etc.
Et au-delà de ce symbole, quels sont les usages qu'ils en attendent? Ils sont aussi bien civils que militaires, par exemple?
Alors, en ce qui concerne l'Angola, on est dans un usage purement civil. En ce qui concerne les usages militaires, seuls deux pays sur le continent africain ont des satellites qu'on appelle duo, c'est-à-dire à vocation civile et militaire. Ce sont l'Algérie avec le lancement de leur satellite de télécommunication qui a eu lieu début décembre, le 7 décembre, je crois. Donc avec une partie de communication à usage civil et une partie à usage militaire et stratégique. Et le satellite marocain qui a été lancé début novembre, qui a des applications civiles et militaires.
Et des ambitions scientifiques, des satellites pour observer soit la Terre, soit le cosmos, est-ce qu'il y en a? Est-ce que certains sont prévus?
Alors, en dehors du Maroc qui a lancé son satellite d'observation, enfin qui a lancé son satellite, c'est pas le Maroc qui l'a lancé, mais qui a un satellite d'observation depuis maintenant un mois et demi, qui est le satellite qui a la plus grande résolution sur le continent. Dans les projets, on n'a pas réellement de projet militaire pour observer la Terre sur le continent africain. On est plutôt dans le cadre de développement de satellites scientifiques et techniques. Il faut savoir qu'il y a deux grandes filières pour accéder à l'espace. On distingue en fait deux grands types de filières. Il y a ce qu'on appelle l'achat sur étagère, sans volonté forcément de réappropriation nationale de la technologie. À ce titre-là, on peut parler du Maroc, l'Angola pour une part, puisqu'elle en est tout à fait aux prémices du développement d'une filière. Et puis, il y a les pays qui ont une ambition de développement de capacité nationale de la filière satellite. Dans cette catégorie-là, on peut ranger l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud.
Merci Florence Zobrowski de nous avoir éclairé sur les enjeux géopolitiques et spatiaux de l'Afrique. Merci aussi, vu que vous étiez à Lyon dans les bureaux de France Bleu, merci à Claire Vuillot qui était à la technique à Lyon. Et puis Agnès, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le changement climatique conduira de plus en plus de gens à migrer en Europe. Pour estimer ces flux de population, des chercheurs de l'Université de Columbia se sont appuyés sur des modèles de simulation du climat, ainsi que sur les demandes d'asile en Europe provenant de 103 pays entre 2000 et 2014. Résultat de leur étude publiée dans la revue Science, avec une augmentation de 2,4 à 4,8 degrés, le nombre de réfugiés climatiques en Europe augmenterait de 660 000 migrants en plus chaque année d'ici 2100. Cependant, des corrélations restent controversées puisqu'isoler et prévoir les différents facteurs poussant les gens à migrer reste très délicat. Une découverte rare, celle d'un oiseau hybride en Amazonie. Il se nomme le manakin doré. En séquençant une partie de son génome, des chercheurs de l'Université de Toronto ont constaté que le volatile provient à 20% du manakin neigeux et à 80% du manakin à tête d'opale. Selon eux, cette espèce hybride est apparue il y a environ 180 000 ans. L'oiseau vit aujourd'hui dans les forêts tropicales du sud de l'Amazonie, éloigné des deux autres espèces de manakins, ce qui lui a permis de développer ses caractéristiques propre comme son plumage et d'évoluer en tant qu'espèce singulière. Rares sont les espèces de vertébrés hybrides capables de se différencier ainsi de leurs parents. Parmi elles, il y a le loup roux d'Amérique du Nord dont on ne connaît toujours pas l'origine exacte. Et un membre de plus dans la famille des plésiosaures. La découverte a été faite en Antarctique. La faible présence de roches susceptibles de conserver en bon état des ossements ne présageait pas d'une telle trouvaille dans cette région du globe. Pourtant, des chercheurs argentins viennent d'y trouver les restes d'un plésiosaure vieux d'environ 150 millions d'années. Il aurait pu atteindre 12 mètres de long et a disparu avec ses congénères durant l'extinction du Crétacé. Selon les experts, à cette époque, l'Antarctique faisait partie de la grande plateforme commune avec l'Australie, l'Inde, l'Afrique et l'Amérique du Sud avant la dérive des continents, de quoi les renseigner sur la capacité de l'espèce à s'étendre. Dans un instant, on s'intéresse à ce qui se passe dans la tête des bébés. Nos invités attendent vos questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Tu ressembles à l'orage, c'était Petit Fantôme.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Daniel Fievé sur France Inter.
La clinique affectée à l'université de Yale aux recherches sur le développement de l'enfant s'est livrée à une étude systématique des premiers stades de la croissance mentale chez l'enfant normal. Nous avons découvert que même l'esprit d'un nourrisson peut être observé à l'aide de méthodes scientifiques objectives. Le nourrisson ne peut pas nous dire ce qui se passe dans son esprit, pas plus qu'il ne peut répondre aux questions à la Binet. Il n'en reste pas moins qu'il manifeste extérieurement ses facultés ainsi que les aspirations de sa vie intérieure. Ainsi, nous pouvons désormais nous représenter l'esprit du petit enfant comme un complexe organique qui modifie sa forme et sa structure au fur et à mesure qu'il se développe. Autant que la transformation de son corps, la création de l'esprit de l'enfant s'opère à travers les processus d'organisation de la croissance. Ces processus s'effectuent bien avant la naissance. On peut se représenter l'esprit de l'enfant comme une merveilleuse usine qui va se développant et fonctionnant. Et il progresse ainsi, de degré en degré, non point tellement sous l'effet de l'éducation, mais avant tout parce qu'il est merveilleusement doué de ses dons naturels de développement qui suscitent des coordinations de plus en plus complexes entre les yeux, les mains et les cellules nerveuses.
Cette archive date de 1949. Voilà comment, à l'université de Yale, en tout cas dans ce rapport, on s'interrogeait sur ce que pensaient les bébés, sur ce qu'il y avait dans la tête des bébés. C'est aussi la question à laquelle on s'intéresse dans La Tête au Carré aujourd'hui avec Ghislaine Dehaene, pédiatre, neuroscientifique, directrice d'une équipe de neuroimagerie du développement à l'INSERM sur la plateforme Neurospin du centre CEA de Saclay, et Olivier Mascaro, chercheur au CNRS au sein du Baby Lab de l'Institut des sciences cognitives collective à Lyon. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de présenter notre sujet qui date de... C'était il y a 68 ans, hein, Ghislaine Dehaene.
Oui, mais je dirais que Darwin avait déjà parlé aussi de la même chose en regardant ses enfants. Il avait fait un tout petit texte disant qu'il fallait observer les bébés et qu'on allait sans doute mieux comprendre comment l'esprit humain se développait en regardant déjà chez le tout petit quelles étaient un peu les prémices de ce développement. Donc sur cette hypothèse qu'il faut regarder les bébés, je pense qu'Olivier et moi sommes tout à fait d'accord. Maintenant, sur ce qu'on met et sur ce qu'on pense que le bébé fait, je pense que là, il y a quand même eu une évolution.
Il y a eu une évolution, hein, certaine, Olivier Mascaro.
Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord avec le constat méthodologique qui est fait dans l'extrait que vous avez présenté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des méthodes beaucoup plus sophistiquées qui nous ont permis de mettre en évidence des capacités bien plus élaborées que même ce qui est évoqué dans le documentaire. Donc là, ici, dans l'extrait que vous nous donniez, on parle de coordination sensorimotrice. Ce qu'on sait maintenant, c'est que les enfants, très très tôt, ont des répertoires conceptuels très développés dans toutes sortes de domaines, y compris les domaines sociaux, les domaines de la représentation des objets physiques, des objets biologiques.
Ouais. Ils ont quel âge, les bébés sur lesquels vous travaillez?
Alors moi, je travaille sur des bébés relativement âgés, on va dire, donc c'est de 6 mois à 2 ans.
Ah oui, 6 mois à 2 ans. Mais alors comment on interroge, comment, parce que vous nous donnez quand même déjà des premiers résultats en disant qu'ils ont une vision assez claire du jeu social, des règles du jeu social, des rapports de force au sein d'un groupe. Comment vous en arrivez à des conclusions pareilles sur des bébés qui ont 6 mois, qui ne parlent pas, hein?
Alors le type de méthode qu'on utilise, ça va mettre en jeu des mesures indirectes. Effectivement, on peut pas leur poser de questions explicites. Donc ce qu'on va utiliser, c'est des mesures notamment d'éveil, et notamment des mesures liées au regard de l'enfant. On va par exemple exploiter le fait que les bébés sont effectivement des formidables machines à apprendre et qu'ils vont orienter leur attention de manière optimale pour apprendre de leur environnement. Mmh. Et donc on peut créer des situations qui vont être par exemple surprenantes pour l'enfant et mesurer le temps qu'ils vont passer à examiner ces situations. Mmh. Donc dans le cadre par exemple d'une relation sociale, si on établit une relation entre deux individus et puis on montre un scénario qui va venir contredire cette relation sociale, on peut voir si le bébé va passer plus de temps à regarder ce scénario.
Un bébé qui scotche, qui regarde plus intensément quelque chose, c'est un bébé dont le raisonnement est contrarié. C'est-à-dire qu'il se dit « ça ne se passe pas comme je pensais que ça devait se passer ».
C'est la façon la plus riche de le dire. C'est vrai que c'est la façon qu'on a de le décrire spontanément en tant qu'adulte. On peut dire au moins que le bébé va passer plus de temps à traiter l'information. Donc c'est quelque chose qui est nouveau pour lui, qui est plus difficile à traiter. Et sous certaines conditions, ça peut aussi être effectivement de la surprise qui va générer des inférences et une recherche d'explication.
Mais alors très concrètement, quand vous dites un bébé sent qui est le dominant, le dominé, qui est le chef en fait dans un groupe social, comment vous voyez ça ?
Eh bien, en fait, on a exploité le fait que très très tôt, les enfants sont capables de se représenter les buts des individus. Donc, ils se représentent le fait que les gens veulent des choses, veulent réaliser des buts. Et on peut montrer dans certaines situations que si les buts d'individus sont en conflit, par exemple lorsque deux individus sont en conflit pour occuper un espace, les enfants vont s'attendre à ce que si A domine B dans cette situation-là, la même personne domine à nouveau dans une situation complètement différente. Mmh. Par exemple, lorsque les deux individus sont en conflit pour obtenir un objet.
Alors ça se passe avec des sortes de petits personnages vidéo, hein, très simples, un carré, un triangle avec deux yeux, on les voit, un qui veut occuper une place, et puis voilà, on crée un rapport de force entre ces deux petits personnages, on voit comment le bébé regarde.
Voilà, c'est l'équivalent d'un petit dessin animé, et on va regarder quels sont les dessins animés, si vous voulez, qui vont générer le plus d'attentes et le plus de temps de regard de la part de l'enfant.
Ghislaine Dehaene, c'est relativement nouveau cette idée que dès les premiers âges de la vie, les bébés élaborent des raisonnements. Ce ne sont pas simplement des éponges qui emmagasinent de la connaissance, ils sont déjà en train de construire des petits raisonnements.
Voilà, ils sont déjà en train de construire. Et ce qu'on avait un petit peu dans l'interview de Yael, c'était un développement très partant, comme le disait Olivier, de sensorimoteur, donc des fonctions les plus primitives, et au fur et à mesure que le cerveau devenait de plus en plus mature, il procurait au bébé des capacités plus complexes. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit grâce à l'imagerie, c'est que toutes ces capacités sont là dès le départ, et qu'effectivement, elles leur permettent des raisonnements déjà complexes, donc sur la cognition sociale, sur le nombre, sur le symbole, de manipuler des symboles. On vient de montrer ça aussi dans le laboratoire, qu'ils sont déjà capables d'avoir des attentes très abstraites sur leur environnement.
Alors vous travaillez sur des bébés de
Alors,
quel âge ?
Beaucoup, beaucoup plus jeunes, si je puis dire, parce que nous, on commence chez le prématuré, donc déjà à 6 mois de grossesse. On a fait des études avec l'équipe d'Amiens, donc chez des bébés qui sont encore dans les centres de néonatologie, pour essayer de comprendre à 6 mois de grossesse, à un moment où les neurones neurones ne sont pas encore en place, hein, puisque les neurones sont formés au centre du cerveau et doivent gagner leur place définitive à la périphérie du cerveau, donc ils sont en train de migrer. Il y a 6 mois de grossesse, c'est pour ça qu'il faut attendre 9 mois, qui est la grossesse, le temps de grossesse normale. Les neurones sont encore en train de migrer, si on fait une période très délicate pour le développement cérébral. Donc on a regardé un petit peu si ces bébés, jeunes bébés, étaient déjà capables, par exemple, de discriminer des voix ou de discriminer des phonèmes, et on a été très surpris de constater que déjà l'espèce d'architecture neurale qui, chez l'adulte, va permettre de reconnaître l'autre, de reconnaître aussi ce que dit l'autre, ce qu'on utilise aujourd'hui en vous écoutant, eh bien, est déjà en place à 6 mois de grossesse.
Alors, comment vous faites pour le savoir, ça?
Alors, on est obligé, là on ne peut pas du tout se baser sur le comportement, puisque des prématurés de cet âge sont totalement immatures, et donc ne peuvent pas réagir encore beaucoup, enfin de façon très robuste à l'environnement. Donc, on utilise des méthodes d'imagerie, comme l'électroencéphalogramme, donc on met des petits capteurs sur la tête qui vont enregistrer l'activité cérébrale, ou la spectroscopie dans le proche infrarouge, donc on met des petites lumières dont l'intensité lumineuse est captée par l'oxygène dans les globules rouges, et donc suivant la teneur en oxygène, on peut mesurer si une région ou pas travaille. Et donc c'est comme ça qu'on peut voir qu'effectivement, si on fait ba-ba-ba-ga, on a une région du cerveau qui répond au changement, ou si on passe d'une voix d'homme à une voix de femme, on a une autre région du cerveau qui répond.
Et ces zones du cerveau, ce sont sensiblement les mêmes, on voit en germe...
C'est ça qui est étonnant, parce qu'on s'attendait vraiment qu'au départ, ça soit d'abord de toutes petites régions, mais non, c'est déjà l'ensemble du cerveau, même les régions frontales, qui sont donc ces régions qu'on a derrière le front qui sont développées particulièrement chez l'humain. Et je dirais qu'à Yale, en 49, ils pensaient certainement qu'elles ne servaient pas chez le bébé, parce que c'est les régions qui se développent aussi pendant la puberté, donc très très tard. Eh bien, chez le prématuré, elles sont déjà fonctionnelles, elles vont déjà répondre, et avec déjà des asymétries gauche-droite, c'est-à-dire que chez l'adulte, c'est l'hémisphère gauche qui sert pour le langage, et l'hémisphère droit qui sert plus pour la cognition sociale. Eh bien, on voit déjà ça chez le prématuré. Donc, on a vraiment un plan dès le départ pour organiser ce cerveau, pour nous permettre d'apprendre, en fait, d'apprendre un environnement qui est particulièrement riche et complexe chez l'humain.
C'est vrai que les bébés ont tout à apprendre. La tâche est immense. Comment apprennent-ils à parler, à compter? Quelle est la part d'inné et d'acquis? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission. Et si vous posez vous-même des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les adresser via la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook de La Tête au Carré. But still, if one of their men is so ferocious, don't worry about it. The disciples are now well aware of the fact that my kung fu is unbeatable. Brother, a trap! Shaolin here. You must take command. Don't resist. You are a traitor. Avenge Master Death. I rely on you. That's when my heart turned cold. I'm a product of the block. We used to cook the product in the pot. Add soda, turn the product into rock. It's in my DNA, you see, it started with my pops. In his heyday, he probably put your father in the box. In my heyday, I probably put the product in my sock. Ain't no vacate, the props become a problem when it's hot. Mayday, mayday, but no charge. I'm nutty with the bars, that's a payday. So, bruh, this ain't even a bar, this is AA. Back up in the trunk with the AK. Each line pack a fabulous punch, no diss to Ray J. Nah, see, I don't dab and I don't nay-nay. Got bottles coming out, warriors come out and play, yeah. Just know I'm grade A, get a slice of bread. Okay, some hoods love me, someone like me dead. Okay, my goon hungry, his eyes is red. Buddy clumsy, go whoops upside your head. We at Dro and Poe suckers. Range Rovers flood up the rucker. Me a 1,000 chains on, I got put on with luck. Evergreen baggies, selling capsules, running the classroom. Slick bastards getting cream, yelling cash roll. Smell like Pacquiao, but under the leather. Hold a Mac 10, pumping up in one oak, the Grammy hour. Coke chemist, taste the flow, it's numb knees. Copper rum blunt, north the get back, salute me, then one, I'm out, off to the races. My blazers ain't patient, they wanna spray, get elephant blown for stalking rape. Jammies carry nitrogen, light up a session like I'm on Vicodin. With the righteous men and we fighting it, yeah, yeah, yeah. The rebels is here, medals and gear, getting fried off a medical, that's incredible. The flyers, the most notorious, why is half of those liars off? Heads like papayas. Before I poly, red light in the Bob Molly, so I can cipher God bodies from the John Gottis. Everybody a boss saying they time's money. Women injections, leave them with the odd bodies. Babies having babies, wearing old navy, robbing old ladies. That's a product of no home training. I show you the ropes, I'm narrating Al Heyman. I told Lighty if I hate him, I'ma violate him. I'm not a shooter, but I know shooters. And if them shooters don't shoot up, I go suit up. Red man and the W is televised. We ain't the media telling hella lies. This a campfire of a vampire. I don't sleep with hot beats through the amplifier. C'était People Say, Wu-Tang Clan sur France Inter dans La Tête au Carré.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ce bazar là? Dire qu'ils nous emmerdent toute la journée avec leurs pubs à la télé. Regarde-moi ce travail là, c'est de la merde le matériel. Je colle, ça pendouille, je décolle, scratch, la couche est foutue.
Allez, on recommence.
Ouais. Oh non, merde, non, elle pisse. Oh non, le canapé, quel chameau cette môme. Elle a attendu qu'on enlève la couche pour pisser.
Vous aurez reconnu trois hommes et un couffin. Pas toujours facile de communiquer avec un bébé et de s'entendre. On s'intéresse au cerveau des bébés dans La Tête au Carré en compagnie de la pédiatre et neuroscientifique Ghislaine Dehaene et d'Olivier Mascaro, chercheur CNRS spécialisé en psychologie du développement. Et les auditeurs commencent à nous envoyer leurs questions. Il y a par exemple Anne qui vous dit « On dit que les bébés sont des éponges émotionnelles. Est-ce vrai? Et jusqu'à quel âge cela dure ?» Ghislaine.
Non, je pense pas que les bébés soient des éponges de quoi que ce soit. Ils sont pas plus des éponges de l'environnement que des éponges émotionnelles. Ils ont leur propre caractère qu'on voit très très tôt quand on est parent. On s'aperçoit très bien que son aîné et son second, on a beau les élever pareil, c'est différent. Donc, non, ils ont leur propre caractère. C'est sûr que, comme tous les enfants, ils répondent non seulement à ce qu'on leur dit, mais à beaucoup de signes non-verbaux. Ouais. Je crois qu'on s'aperçoit pas assez qu'on donne beaucoup d'indices non-verbaux et que les enfants sont aussi sensibles à ces indices non-verbaux, et pas seulement à ce qu'on croit leur dire.
Mais Olivier Mascaro, que sait-on exactement de ce que ressentent ces bébés? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que les sentiments sont exacerbés. Un bébé en colère, on peut pas douter, il est en colère, il braille. Un bébé qui sourit, c'est aussi très expressif. Alors est-ce que c'est juste visuel ou est-ce que effectivement leurs émotions sont exacerbées?
C'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a une question qui est de est-ce qu'on peut mettre en lien ces expressions émotionnelles très fortes et un ressenti qui lui-même serait exacerbé, serait extrêmement fort. Ce qu'il faut comprendre chez le tout petit bébé, c'est que les émotions, c'est leur toute première façon de communiquer ouais. avec les gens autour d'eux. Et donc, effectivement, par exemple, le fait de pleurer, ça va être une façon de communiquer qui est nécessaire pour transmettre le fait qu'ils ont besoin de telle ou telle chose. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a derrière un ressenti, absolument une détresse par exemple extrêmement forte. Après, ce qu'on sait, c'est effectivement que très tôt, les expressions émotionnelles que les enfants utilisent, ils les utilisent à but communicatif. Ils vont par exemple, au niveau par exemple du sourire, on voit que les enfants vont, à partir de la première année de vie, ils vont se mettre à sourire plus quand une personne est là pour être la cible, si vous voulez, du sourire. Donc ils vont vraiment utiliser ces émotions pour communiquer de manière sociale. Et puis après,
et intentionnellement, hein. Ça veut dire qu'on sourit avec l'idée qu'il va y avoir une réponse.
Avec l'idée, en tout cas, que le sourire est dirigé vers quelqu'un. Ouais. Et puis par rapport à ce que vous disiez sur les éponges émotionnelles, c'est vrai qu'entre 1 et 2 ans, les enfants vont être déjà très très sensibles à tout ce que les parents et les gens autour d'eux vont pouvoir communiquer par le biais des expressions émotionnelles. Par exemple, si quelqu'un exprime une émotion positive ou une émotion de dégoût vis-à-vis d'un objet, par exemple, les enfants vont préférer s'approcher de l'objet vers lequel les parents ont exprimé une émotion positive. Et donc, ils vont utiliser cette information-là pour communiquer.
Donc, il y a bien cette notion d'éponge, ou alors peut-être d'empathie émotionnelle quand même.
Il y a cette très tôt. Je dirais pas éponge non plus, mais je pense qu'ils sont sensibles aux émotions. Ils sont sensibles aussi d'une manière qui peut être en particulier sélective. Ils vont, par exemple, préférer s'inspirer de certaines émotions et des émotions qui sont produites par certaines personnes plutôt que par d'autres. Donc, si c'est les parents, c'est différent de, par exemple, de personnes étrangères. Donc, c'est des éponges, si vous voulez, mais des éponges sélectives et des éponges qui font des inférences. Donc, ce sont pas des éponges passives.
Alors, sur l'apprentissage, Ghislaine Dehaene, vous nous avez dit, dans la première partie de cette émission, que le cerveau des bébés commence à se modeler dans le ventre de sa maman. On le voit quand avec les bébés prématurés et les tests que vous pouvez faire. Est-ce que ça veut dire que l'apprentissage même commence avant la naissance?
Oui, il y a des expériences très jolies de Benoît Chasles, en particulier sur la mémorisation, par exemple, des goûts du liquide amniotique, puisque pendant la grossesse, le bébé va avaler son liquide amniotique. Et donc, on le sait aussi que suivant ce qu'on mange, on va donner un goût au liquide amniotique. Et donc, il y a des préférences alimentaires qui sont déjà mises en place pendant la fin de la grossesse. Donc, il apprend déjà. Il apprend aussi, puisqu'il entend pendant la grossesse.
À partir de quel mois il entend?
Alors, c'est toujours des questions. C'est compliqué. Il faut pas seulement penser à l'oreille. Il faut penser aussi derrière qu'il y a un cerveau et que donc c'est pas seulement le fonctionnement de l'oreille. Il faut aussi que le cerveau derrière soit capable de traiter. Et donc on pense qu'à partir tout pendant le dernier trimestre de la grossesse, il entend et il va commencer à apprendre sans doute la voix de sa maman, je dirais dans le dernier mois de la grossesse, parce qu'il faut aussi que les mécanismes de mémoire soient mis en place. Il faut penser le cerveau comme une suite de régions qui vont avoir une maturation, un calendrier de maturation différent suivant les différentes régions, et chacune de ces régions fait un travail différent. Donc il ne faut pas seulement entendre, il faut ensuite traiter, discriminer, et puis il ne faut pas seulement discriminer, il faut se souvenir de ce qu'on... Donc tout ça, c'est pris en charge par différentes régions qui ont une maturation différente. Donc le bébé entend dès 6 mois, commence à reconnaître et à discriminer sans doute aussi dès 6 mois de grossesse, mais apparemment ne se souvient de la voix de sa maman que pendant le dernier mois de la grossesse. Mmh. Et la voix du papa qui est un peu plus lointaine, donc bon, il faut que le papa soit parle plus près du ventre, soit il va l'apprendre pendant les premiers jours de vie.
Alors il apprend, on a compris, à reconnaître la voix des proches, mais est-ce qu'il apprend déjà du coup un peu le langage ça va lui servir?
Oui. Alors, faut se dire aussi que si on pense à cette capacité d'apprentissage, il doit apprendre plusieurs choses à la fois. Comme le disait aussi un petit peu Olivier, par exemple, il doit apprendre que, par exemple, maman n'aime pas le chocolat. Sans doute improbable, mais que tout le monde autre aime le chocolat. Donc en fait, on a plusieurs choses à apprendre en même temps. On doit apprendre que bateau et bateau, c'est toujours le même mot bateau, oui. Mais ma voix est différente de celle d'Olivier, différente de la vôtre. Il faut que j'apprenne aussi à reconnaître vos voix. Et donc ces apprentissages sont distribués sur différentes régions cérébrales. Mmh. Et donc on va apprendre plusieurs choses à la fois avec plusieurs régions cérébrales et en fonction de plusieurs contextes. Et ça devient très compliqué. On ne sait pas comment les bébés font.
Alors je vous propose d'écouter Maya Grattier, qui est professeure de psychologie du développement. Elle est en train de décrypter un échange entre un nourrisson et sa mère.
Ça t'a plu ?
Donc réponse du bébé, mais la mère élabore, elle est toujours sur le même sujet.
Ah, t'aimes bien prendre le métro ? T'aimes bien prendre le métro dans le kangourou avec maman ? Ah, bon, tu me rassures.
Voilà, ça c'était ce moment d'intensité maximale. Et puis, comme ils se sont beaucoup excités ensemble, eh bien, il faut calmer. Et donc, c'est la mère qui s'occupe de la conclusion.
Ah, c'est bien.
Olivier Mascaro, ce qui est intéressant quand on regarde de près ces échanges entre mère-enfant ou entre le papa et l'enfant, c'est que les réactions du bébé ne viennent pas au hasard. Il laisse parler l'adulte qui lui fait face et il attend les blancs pour lui-même exprimer quelque chose qui n'est pas encore du langage, mais qui sont des balbutiements. Tout ça, ça a un sens déjà.
Tout ça, ça a un sens, oui. On sait que très très tôt, les enfants vont être sensibles à la structure de la conversation, si vous voulez, ou quelque chose qui ressemble à cela, et au tour de prise de parole. Un peu ce que l'on fait à l'heure actuelle, on échange, et on a deux rôles, et il y a une personne qui écoute et l'autre personne qui parle. Et on voit qu'il y a une sensibilité à cet aspect-là de la communication très très tôt chez l'enfant. On pense que cette sensibilité à la prise de parole, si vous voulez, au tour de parole en quelque sorte, il permet de jouer un rôle dans la détection d'une interaction communicative et aussi la détection d'une intention de communiquer de la part des adultes vers les enfants. Ça, c'est un des aspects. Et un autre aspect intéressant que vous avez dans l'extrait que vous avez diffusé, c'est le fait que la mère va utiliser une intonation particulière pour s'exprimer et pour communiquer avec l'enfant. Si vous avez bien écouté, ça va être une voix plus aiguë, oui. Avec une prosodie exagérée, ce qu'on appelle le mamané ou motherese en anglais. Et cette façon-là de parler, on peut penser qu'elle va jouer un rôle aussi dans le fait de faciliter les apprentissages chez le jeune enfant.
Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que cette façon très particulière qu'on adopte tous assez spontanément face à un bébé, hein, on se met à surarticuler, à faire des grands écarts d'intonation avec une mélodie très exagérée, ça a un sens pour le bébé, ça a un vrai intérêt.
Sans doute, oui, parce que d'abord, le bébé est beaucoup plus lent que l'adulte, donc de ralentir sa parole et de ralentir les échanges et de les exprimer et sans doute lui donner des valeurs beaucoup plus importante pour son apprentissage. Après ça, il y a d'autres civilisations où on ne parle pas aux bébés directement et de la même façon et où ils apprennent quand même à parler. Donc je pense que le cerveau du bébé est un cerveau qui apprend de toute façon. Alors on peut l'aider le plus qu'on peut, mais bon, faut se dire qu'il n'y a pas de bonne manière de faire et qu'à travers toutes les civilisations, il y a quand même eu une grande variation dans la façon de s'adresser au bébé et que tout le monde a appris.
Et dans la façon de s'adresser au bébé, parfois, ça ressemble à ça.
Poutou, 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 poutou. Moukou, choutou, koutou, routou, bou. Kissou, koutou, koutou.
Alors, ça dure assez longtemps. Hein. C'est Michel Boujna dans Trois hommes et un couffin encore. Ça, on se fait plaisir ou le bébé, ça lui apporte quelque chose quand on dit plus rien et qu'on fait juste des onomatopées.
On se fait plaisir, ça lui fait plaisir et c'est un échange. Enfin, peut-être Olivier en parlera beaucoup mieux que moi, mais la principale action de ce genre de choses, c'est vraiment de créer un échange entre l'adulte et l'enfant et d'avoir un plaisir à communiquer ensemble et à échanger.
Olivier. Oui, c'est vrai qu'il y a un aspect échange émotionnel et relationnel et on sait que c'est très important pour le développement de l'enfant aussi, cet aspect affectif. Hein. Et puis, il y a un autre aspect qui est lié justement donc à cette façon de parler exagérée, qui est que sous certaines conditions, elle peut aider l'enfant à détecter le fait qu'on a l'intention de lui communiquer quelque chose. À nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas évident de reconnaître sous quelles conditions quelqu'un a l'intention de vous transmettre une information. Ouais. Et dans ces situations-là, quand on parle des tout petits enfants, ils vont pouvoir reconnaître qu'ils sont déjà dans une interaction de communication. Et bon, ils ne peuvent pas effectivement interpréter ce qu'on leur communique. En l'occurrence, on ne leur communique pas grand-chose dans cette situation-là.
De la bonne humeur, peut-être.
De la bonne humeur, voilà. Le plaisir d'être avec eux. Mais c'est déjà un premier pas vers ensuite le traitement des actes communicatifs.
Et j'ajouterais que c'est quand même une spécialité de l'espèce humaine, parce qu'on a montré effectivement que les petits chimpanzés pouvaient apprendre à utiliser des outils en regardant leurs parents. Mais jamais on a ces échanges intenses entre la mère et l'enfant pour montrer quelque chose. Et les boogie-boogie-boogie est la première étape, en fait, de ces échanges où on va communiquer pour apprendre quelque chose et où le bébé sait qu'il va apprendre parce que sa mère ou l'adulte est en train de communiquer, de se mettre dans cet état particulier pour transmettre une information.
Vous avez aussi fait une découverte assez étonnante et intéressante du point de vue de l'apprentissage, Olivier Mascaro. C'est cette idée que l'enfant fait confiance naturellement à l'adulte, même quand il a des bonnes raisons de savoir que l'adulte se trompe.
Oui, c'est vrai. On a pu voir que effectivement les bébés étaient très confiants, mais si vous voulez, à la rigueur, c'est pas une caractéristique que des bébés. Les adultes aussi sont très confiants. Si on pense à toutes les croyances qu'on a sur le monde, on est tous d'accord pour dire, par exemple, qu'il y a des entités invisibles comme les molécules d'oxygène et que celles-ci peuvent avoir un impact important sur notre santé, ou encore que Napoléon était une figure historique importante. Et si on nous demandait, par exemple, de justifier ces croyances, tout ce qu'on pourrait dire, c'est quelqu'un me l'a dit, je l'ai entendu quelque part. Donc le fait qu'une information nous soit communiquée par autrui, c'est quelque chose qui nous donne des raisons de croire aussi chez l'adulte. Mmh. Et chez le jeune enfant, on a pu voir qu'il y avait effectivement une forme de confiance très forte qui se développait très précocement, c'est-à-dire que même dans une situation très simple où un enfant va chercher un jouet, voit où le jouet se situe, si un adulte lui communique que le jouet se trouve dans un autre emplacement, l'enfant va faire plus confiance à l'information qui est communiquée par l'adulte qu'à ce qu'il a vu. Et cette confiance va devenir de plus en plus forte au cours de la deuxième année de vie. C'est-à-dire que les enfants de 1 an vont faire moins confiance à l'information communiquée que les enfants de 2 ans, ce qui montre que les enfants deviennent non pas plus sceptiques, mais plus confiants au cours des premières années de vie.
De très nombreuses questions sont arrivées pour vous de la part de nos auditeurs. On va prendre le temps d'y répondre dans un instant, suite et fin de notre immersion dans la tête des tout-petits, avec nos invités dans un instant sur France Inter.
Ne joue plus les marlous, je n'ai pas revu Cabalou. Rien n'a plus, rien n'a plus vraiment le même goût. Viviane Leigh a les cheveux blancs, elle regrette le noir et blanc. Pour autant qu'en emporte le vent. Wow, wow, wow. Seigneurita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Seigneurita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé l'Alhambra. Brando voudrait bien retenir un tramway nommé Désir. Hollywood, Hollywood, ne géant. Rien n'est plus, rien n'est plus vraiment comme avant. Wow, wow, wow. Señorita, dépêche-toi, je sens qu'il est bien tard déjà. Quand ma guitare a sous mes doigts les caprices d'une diva. Señorita, dépêche-toi, j'espère que tu ne m'en veux pas. Mais les fins comme au cinéma, tu sais ça n'existe pas. Meurt dans un tango, retenant, retenant le dernier sanglot. Tous les Indiens sont en VO à l'ouest du Rio Bravo. Rien ne va plus, rien ne va plus, même chez les gringos. Oh, oh, oh. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tafta. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Señorita, dépêche-toi. Je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma. On a fermé l'Alhambra. Señorita, dépêche-toi. J'ai oublié les camélias. Je n'ai pas le physique pour ça. Alors danse, danse pour moi.
C'était Signorita Christophe sur France Inter.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Daniel Fievé sur France Inter.
Comment je construis la connaissance? À partir d'un état zéro qui est la naissance. Et alors, pour savoir, étant biologiste de formation, comment je construis la connaissance, il fallait reconstituer son histoire biologique. Et chez l'enfant, alors l'accroissement de la connaissance est quelque chose de stupéfiant. Entre la naissance et 18 mois, tout ce qui se construit chez un bébé qui ne peut pas recevoir des leçons de l'adulte, c'est quelque chose de formidable.
C'était la voix de Jean Piaget, psychologue spécialisé dans l'enfance, dans Apostrophe, le 20 mai 1977. On s'intéresse à un âge de la vie par lequel nous sommes tous passés, mais dont personne n'a le moindre souvenir. À quoi pensions-nous lorsque nous étions bébés? Comment percevions-nous le monde? C'est ce que nous essayons de voir avec Olivier Mascaro, chercheur au sein du Baby Lab de l'Institut des sciences cognitives à Lyon, et Ghislaine Dehaene, directrice d'une équipe de neuroimagerie du développement à l'INSERM. Ghislaine Dehaene, comment se fait-il que nous gardions aucun souvenir de cette période de notre vie quand nous étions bébés?
Beaucoup de nos souvenirs sont fondés sur le langage, sur le fait qu'on se redit et qu'on se remémore avec des mots ou avec des images la période des vacances dernières. Alors que, évidemment, chez le tout petit, il n'a pas encore de langage, il a beaucoup de sensations qui peuvent être très élaborées, comme on le disait tout à l'heure, qui peuvent monter jusqu'à des régions, mais il ne va pas pouvoir les transcrire en mots, il ne va pas pouvoir les redire immédiatement, donc voilà, c'est sans doute pour ça. Mais en fait, on n'a pas vraiment d'explication sur cette amnésie infantile qu'on décrit, mais qu'on ne sait pas encore très bien expliquer.
Mais on garde une mémoire inconsciente de tout ça? Au fond de nous.
Oui, alors il y a eu des études un peu liées à la prématurité encore, où ces enfants sont piqués pour des raisons médicales, pour extraire le sang, et où on s'aperçoit qu'adultes, ils ont une sensibilité à la douleur qui est plus importante, et donc on a pu revenir sur leur dossier médical de l'époque et montrer que la sensibilité à la douleur adulte était proportionnelle au nombre de piqûres qu'ils avaient eues au talon pour récupérer du sang au moment de leurs ennuis cliniques.
Alors quelques-unes des questions qui sont arrivées pour vous sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Nielsen vous demande, à partir de quel âge l'enfant comprend-il que le reflet dans le miroir, c'est lui? Et puis toujours un peu dans le registre de la conscience, il y a Charlotte qui vous demande, mon professeur de philosophie m'a dit qu'avant que les bébés aient conscience d'eux-mêmes, vers l'âge de 2 ans, ils pensent être ce qu'ils voient. Par exemple, lorsqu'ils voient leur mère, ils pensent être leur mère. Est-ce vrai ? Demande Charlotte. Alors sur cette conscience
des bébés. Alors sur cette question dernière, non. Je ne pense pas qu'ils pensent qu'ils sont leur mère. La question porte en fait sur la conscience de soi. À partir de quel moment on sait qu'on est soi et donc qu'on n'est pas un autre. Alors tant qu'on ne sait pas qu'on est soi, on ne peut pas dire si on est soi ou un autre. Donc la deuxième question tombe un peu à l'eau. Alors on a cru très longtemps que c'était à la fin de la deuxième année de vie parce que les tests qui permettaient de le voir, par exemple on colle un point rouge sur la figure de l'enfant, on le met dans un miroir, s'il essaye de l'enlever sur sa propre figure, c'est donc qu'il a compris que le reflet dans le miroir est bien lui.
Et alors ça arrive à partir de quel âge?
Je sais pas, 18 mois, 2 ans
18 mois, oui.
À partir de 18 mois. Donc, est-ce qu'on peut en conclure vraiment qu'à partir de 10, avant 18 mois, il n'a pas vraiment conscience de
lui-même ?
Alors,
il y a des expériences très, très récentes de Sid Quider, au laboratoire de psycholinguistique à Paris, qui montrent qu'en utilisant des lasers et en expliquant au bébé ce que veut dire un laser, avant la première année de vie, on pouvait lui faire des taches avec ces lasers sur la peau, donc sans qu'il le sente, mais où il y a un point rouge, et le bébé va essayer d'enlever le point laser sur sa figure. Donc avec un petit entraînement pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire. Parce que la question, quand un bébé ne réussit pas une de nos tâches, on ne sait pas si on lui a pas bien expliqué,
oui.
Qu'on n'a pas de mots, qu'il n'a pas de mots, et qu'on l'a mis dans la situation pour qu'il puisse comprendre ce qu'on veut de lui. Et donc c'est ça qui est difficile. Mais on arrive avec à essayer d'expliquer ce genre de choses.
Olivier Mascaro, Lucille nous demande, depuis son premier mois, ma fille sourit tout le temps dès qu'elle voit un nouveau visage ou que quelqu'un la regarde. Est-ce que les premières manifestations émotionnelles du bébé déterminent un caractère futur, curieux ou avenant ? Alors, est-ce que des expériences ont été faites dans ce registre ? Savoir si ce qu'on perçoit du caractère d'un bébé va se transformer plus tard en quelque chose de concret ?
C'est vrai que c'est une intuition qu'on peut avoir et on peut imaginer qu'il y a effectivement des déterminants très précoces des caractéristiques de la personnalité. Ceci étant dit, à ma connaissance, non, il n'y a pas d'études systématiques. Donc, je ne peux pas répondre, vous dire oui, ça va être un enfant qui va être très, très avenant par la suite. Ouais. Il y a beaucoup de changements au niveau social par la suite et notamment avec tout ce qui concerne l'attachement autour. Donc, les très, très jeunes enfants vont être beaucoup plus avenants vis-à-vis des personnes nouvelles, des personnes étrangères. Et puis, autour de 8-9 mois, on va voir qu'ils vont commencer à se méfier un peu plus des gens qu'ils ne connaissent pas. Et on pense que cet aspect, cette méfiance vis-à-vis des étrangers, elle joue un rôle aussi lorsque l'enfant se détache un petit peu de ses parents et commence à se mouvoir par lui-même. Et déjà, à ce moment-là, il y a des changements donc dans la façon d'entrer en relation à l'autre. Et puis ensuite, par la suite, évidemment, tout au long du développement, y compris dans l'enfance, l'adolescence, etc. etc.
Donc, alors, oui, il y a aussi des choses sur lesquelles vous avez tous les deux réfléchi, certains travaillé, cette notion de chiffres. Les bébés, assez rapidement, ont la capacité à se représenter les quantités. Alors, de là à dire qu'ils sont bons en maths, c'est peut-être un peu rapide. Qu'en est-il alors de cette représentation des chiffres ?
Alors, qu'on partage avec les animaux, c'est-à-dire que même les pigeons, les rats savent très bien où il y a le plus de graines, par exemple. Et donc, les bébés, très rapidement, sont capables de voir qu'il y a plus d'objets à cet endroit-ci qu'à cet endroit-là, ou d'entendre qu'il y a plus d'événements sonores en succession. Ouais. Mais ce n'est pas encore des maths, c'est simplement une espèce de module de sens des nombres qu'on partage avec l'animal. Ce qui arrive ensuite, c'est que les humains sont capables de construire un système de calcul exact par-dessus cette représentation approximative qu'on partage avec les autres animaux. Mmh. Et c'est pour ça, quand on dit les humains apprennent beaucoup, mais les animaux font déjà beaucoup de choses. Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir que nos collègues qui travaillent avec les macaques ou avec les rats, dès qu'on a une expérience qui marche chez les bébés, disent « Attendez, on va faire exactement la même et on va voir si vos bébés sont si forts que ça. » Et souvent, on montre que les animaux font les mêmes choses que les bébés. Alors, à partir de quel moment les bébés humains sont réellement supérieurs aux autres animaux, c'est encore une quête qu'on n'a pas obtenue. Sans doute, le langage est crucial pour le développement humain.
Finalement, ce qu'on a de plus, C'est cette capacité à former un langage, à l'apprendre et à l'avoir
communiquer,
construit.
À savoir qu'on peut passer de l'information à quelqu'un d'autre, hein, ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire de faire confiance à quelqu'un et de faire confiance à l'information qu'il va nous donner, information qu'il nous transmet par le langage, le plus souvent, puisqu'on est une espèce qui parle, mais aussi par d'autres indices de dégoût ou de plaisir vis-à-vis de telle ou telle situation. Mmh.
Plus on avance, plus on se rend compte que les capacités des bébés sont plus importantes que ce que l'on pensait.
Oui, parce qu'on partait de très très bas. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine il y a 30 ans, à la naissance, les bébés, ils étaient uniquement sous corticaux. Alors ça, on partait vraiment de très très bas. En tout cas, en médecine, les parents étaient évidemment plus avisés.
Merci à tous les deux. Si des auditeurs ont envie de participer à ces expériences que vous faites avec les enfants, qui sont plus des tests, hein, évidemment, on peut aller sur vos sites internet respectifs et s'inscrire, Olivier ?
Oui, on invite toutes les familles qui sont intéressées, notamment donc pour ma part dans la région lyonnaise, à nous contacter. Donc vous pouvez nous trouver en tapant sur un moteur de recherche Baby plus loin Lyon et vous tomberez sur nous.
On va mettre tout ça en lien sur la page de l'émission. Merci à tous les deux.